c'est toujours un comté très, très baromètre.
Marie Montpetit.
J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
On fait quoi?
Patrick Derry.
Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an.
La rencontre Derry Montpetit.
La rencontre Derry Montpetit, oui, mais c'est surtout Marie et Patrick que je veux entendre parce que, les amis, on l'a retrouvé. On sait, il est où? Jean-François Roberge est sorti de sa tanière. Il est sorti hier. On ne sait pas il est où aujourd'hui, mais on l'a vu hier.
Ouais.
Et on l'a vu où?
Et on l'a vu chez Paul Larocque. Écoute, il était là pour nier l'importance des aérosols dans la transmission de la COVID. Et là, je sais que personne ne va entendre parler de la COVID. Même moi, là, je suis vraiment... J'ai juste mon voyage d'en parler.
T'es pas écœuré, toi?
Oui, j'étais écœuré, mais parce que le virus, lui, il est pas écœuré. En tout cas, bref, ça pour dire que M. Roberge a fait une sortie absolument lamentable parce que c'est le ministre de l'Éducation, puis essentiellement, il a nié l'état de la science. Fait que c'est là qu'on est rendu.
Mais là, je veux faire l'avocat du diable. Là. C'est quand même la santé publique qui n'a pas voulu recommander la ventilation.
Ah oui! Non, mais c'est la santé publique, c'est sûr que c'est un problème, mais je veux dire, à un moment donné, c'est soit que les lois de la physique sont différentes au Québec, ou soit qu'on a un problème à la santé publique et au gouvernement.
Mais Marie, doit-on le reprocher à Jean-François Roberge ou est-ce qu'on doit le reprocher?
Non, absolument. Moi, je suis absolument d'accord avec Patrick là-dessus. Écoute, il aurait dû continuer à être où est-ce qu'il était, c'est-à-dire je sais pas trop où depuis le début de la campagne. Sa sortie est tellement déplorable, je ne peux pas croire qu'il s'en va faire une entrevue puis qu'il s'en va. Tu sais, c'est aussi déplorable que, je veux dire, nier l'enjeu de la ventilation dans la COVID, là, c'est comme dire que la Terre est plate. Là. On est dans le même calibre. Il y a aucune ambiguïté scientifique là-dessus. Donc, je ne comprends pas pourquoi il est sorti hier faire cette entrevue-là. En plus de ça, dans un contexte où le premier ministre disait que c'était pas clair qu'il était dans son pool de conseil des ministres.
Mais là, je nous trouve un peu sévère là, parce que je me dis, imaginez si lui, il avait contredit la Direction nationale de la santé publique puis il avait dit, tu sais quoi, non, la ventilation, je la veux partout. Puis vous avez beau me donner vos recommandations, je vous écoute pas. Est-ce qu'un ministre au Québec, durant la période la plus importante de la pandémie, peut se permettre de ne pas écouter la Direction nationale de la santé publique?
Ouais,
mettre plein de bémols là-dessus. Hein, parce que la santé publique, c'est celle qui disait en début de pandémie qu'il fallait pas mettre de masque parce que le masque, c'était un faux sentiment de sécurité. Puis écoute, j'aurais de la difficulté à me rappeler toutes les exemples.
Moi, je me rappelle, mais on va faire la chronique là-dessus. Mais c'est parce que c'est ça, c'est qui écoute qui là-dedans. Puis à un moment donné, là, tu sais, c'est pas une question d'opinion. Il y a un consensus massif. Puis en plus, comme je dis, là, je pourrais en parler pendant 20 minutes, là, mais le nombre de fois où la santé publique s'est plantée. En fait, le gouvernement a fini par faire presque tout ce que la santé publique disait qu'il fallait pas faire, sauf la ventilation.
Les tests rapides aussi, hein? Combien de fois on a eu cette discussion-là? Moi, je me souviens pas le nombre de fois que j'ai posé des questions en chambre pour insister pour que les tests rapides. Puis là, on est passé de c'est dangereux, c'est un faux sentiment de sécurité, assez pas fiable, finalement.
À peu près comme les masques.
Un an et quart plus tard, à en distribuer partout. Un an et quart de pandémie, là. Je veux dire,
la vaccination des travailleurs de la santé, la troisième dose aux travailleurs de la santé puis au grand public. Il y a un paquet de choses, non? Vraiment, là. C'est une question de leadership politique aussi, là.
Là, sortons de la ventilation. Parlons d'environnement. L'environnement va être au menu de ce soir. Ce soir, c'est le débat de Radio-Canada. Et là, vous allez entendre plein de belles promesses. Patrick, à combien on devrait mettre la cible de diminution des gaz à effet de serre? Parce que j'ai l'impression que c'est celui qui donne le plus gros chiffre qui est meilleur.
Ouais, c'est comme une version de la poche de The Price is Right. C'est juste pour rappeler, la cible par rapport à 1990, c'est de réduire de 37 %. Puis là, le gouvernement a choisi 37 %, le gouvernement libéral de l'époque. Puis c'est 37,5 puisque l'Ontario, c'était 37. Fait qu'on est 0,5 de plus. La CAQ était au même endroit. Les péquistes sont à 45. Québec solidaire est à 55. Mais c'est parce que ça a baissé de 3 % en 30 ans. Il reste 10 ans parce qu'on a les chiffres de 2020. C'est long à calculer là, pour faire le reste. Tu sais, on est peut-être commencé à dire qu'écoutez, gang, c'est peut-être important, mais là, on va agir, mais ces cibles-là, ça arrivera pas. Ça arrivera juste pas.
Écoute, ça me fait de la peine de t'entendre, Patrick, dire ça. Moi, j'ai super hâte au débat ce soir. Puis je suis vraiment contente parce que la première demi-heure, la première portion, c'est quand même celle qui est la plus écoutée généralement. Je suis enfin contente qu'on parle d'environnement. Puis là, il y a quand même deux visions qui s'affrontent, là, si on y va principalement sur celle de la CAQ et celle de Québec solidaire. Tu sais, on l'a vu, le gouvernement de la CAQ, pas accompli grand-chose en 4 ans. Là. Je veux dire, quand on voit toutes les sonnettes d'alarme, le GIEC en matière d'environnement, c'est ça. Mais quand on voit en plus de ça dans un contexte où il est plus minuit moins une, là, il est minuit moins 12 secondes.
Il est pas mal minuit quart
même, c'est ça exactement. Là. Puis la question, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un moment où ce rattrapage-là pourra plus se faire. Puis on sait qu'on a un gouvernement de la CAQ qui le dit très ouvertement. Puis quand tu regardes leur programme, là, c'est pas bien ambitieux non plus ce qu'ils vont faire. Donc j'ai assez hâte de voir
ce
débat-là.
Mais c'est quoi qui est plus important, Marie? Avoir de l'ambition ou d'avoir les actions pour répondre?
Ah, c'est les actions. C'est les actions. C'est pour ça que moi, le débat des chiffres, tu sais, la question des cibles, je pense que c'est important d'être en phase avec l'international. Avec ce que nous dit l'OMS, entre autres, avec ce que nous disent les grandes organisations, les GIEC, tout ça, les experts internationaux. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, c'est ce que tu fais au day-to-day, là. Je veux dire, c'est les actions qui vont être posées. C'est pour ça que je regardais le programme de la CAQ. C'est pas inintéressant ce qui est proposé. Au contraire, la mise en place de nouveaux parcs nationaux, tout ça, c'est beau. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire qu'on va renverser la tendance au niveau de la production de GES, là.
Mais est-ce qu'on peut se permettre de voir ça de manière plus globale? Pas juste de manière qu'est-ce que le Québec diminue comme émission de gaz à effet de serre. Je vous donne un exemple. On a des mines de lithium que l'on peut exploiter. Exploiter une mine, tu produis du gaz à effet de serre. Mais si tu arrives à exporter puis à faire en sorte qu'il y a plus de batteries pour voitures électriques à travers le monde, globalement, sur le point de vue international, tu contribues à ce que d'autres États diminuent leur gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui est plus important, que nous, on atteigne nos objectifs, ou est-ce que collectivement, il faut qu'on atteigne nos objectifs? Ça demande des sacrifices.
Ben, c'est sûr qu'il y a toujours ce discours-là de même si demain matin, le Québec devenait parfait et carboneutre, ça compensera jamais à l'intérieur. On vit pas dans une bulle de verre, donc ça compensera jamais pour ce qui est fait dans d'autres pays à l'international qui, eux, sortent d'une certaine dynamique de tiers-monde, par exemple, et qui, là, se mettent à être des consommateurs, ce qu'on a fait depuis 50 ans. Une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que ce qu'il faut aborder, c'est toute la question du transport. Je rejoins assez les propositions de Québec solidaire sur toutes les le transport en commun.
Moi, je suis assez d'accord aussi. Mais, tu sais,
c'est le plus grand producteur de GES, c'est le transport.
Ils veulent installer un tramway à 4,1 milliards de dollars à Sherbrooke. Les idées, c'est bon. La faisabilité, on passe à côté?
Ça, c'est une idée, c'est une proposition. Moi, je te parle de façon globale. Je pense qu'il faut mettre l'accent. C'est un enjeu prendre le train. Je veux dire, je l'ai fait pendant des années, aller à Québec toutes les semaines. Il y a des milliers de travailleurs qui vont à Québec toutes les semaines. Je veux dire, t'as 2 trains par jour, un à 6h le matin, 6h le soir. Il est tout le temps ralenti, il est tout le temps été. Il y a des enjeux de transport au Québec qui, honnêtement, on prendrait beaucoup moins notre voiture solo si on mettait l'accent sur le transport en commun.
On a un corridor là entre Québec, mettons Toronto. Tu sais, je sais pas, il y a peut-être 20-25 millions de personnes. On pourrait avoir un train à grande vitesse là-dedans, là, par exemple. C'est quelque chose qui, évidemment, ça dépasse les frontières du Québec. Tu as parlé des mines, Yasmine, je suis d'accord. Mais le gros secteur, c'est les transports, puis c'est l'auto solo. Puis la CAQ, on dirait, tu sais, OK, on va faire un parc à gauche, à droite, mais c'est parce que l'éléphant vert, en tout cas gris, blanc dans la pièce, c'est les gaz à effet de serre. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Fait qu'il faut augmenter massivement l'offre de transport en commun. Puis c'est sûr que ça va coûter super cher parce qu'on n'a rien fait depuis 60 ans, tu sais, à part un peu le métro à Montréal.
Si tu me permets d'ajouter, moi, j'avais fait une rencontre quand j'étais porte-parole en environnement. J'avais trouvé ça extraordinaire. Tout ce qui est technologie verte, tu sais, t'as des milliers de camions qui prennent la route chaque jour, puis t'as des entreprises de camions, par exemple, qui ont mis du solaire sur les toits pour réfrigérer automatiquement, solairement, si on veut, les camions. Tu sais, il y en a des solutions aussi qui vont diminuer l'utilisation
de GES. Des ambulances électriques éventuellement dans quelques mois qui vont pouvoir prendre la route, des au propane également. Je sais que c'est moins propre que l'hydroélectricité, mais c'est toujours mieux que...
Donc,
il y en a des solutions. Faut juste. Moi, j'aimerais ça entendre ce soir des partis qui vont les mettre, pas une guerre de chiffres, justement. Moi, là, 37, 50, 32, 47, là, ce que je veux savoir, là, c'est qu'est-ce que tu vas faire concrètement à partir du 4 octobre pour les 4 prochaines années, parce que ça file vite le temps, là.
Le temps file vite et le temps de la chronique aussi. C'est pour ça que je veux absolument qu'on parle des promesses amusantes. Amusant dans le sens monde des licornes, irréaliste, on fait un rêve. Puis là, j'ai l'impression que depuis qu'on parle déjà de l'environnement, on est déjà dans le monde des promesses amusantes avec 55 ans de baisse des émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans. C'est pas mal le monde des licornes, on est déjà là-dedans.
C'est un peu le même domaine. Moi, je faisais le lien, par exemple, parce que c'est le PLQ, par exemple, il promet un médecin de famille pour tout le monde. Mais je veux dire, C'était la promesse de la CAQ en 2018, puis on est passé de 400 000 Québécois qui attendaient à un peu plus de 1 million, puis un peu moins, là, parce qu'en tout cas, bref, on a fait pas de la manipulation, mais en tout cas, on a attribué à d'autres professionnels que des médecins. Je suis pas convaincu que ça va fonctionner, mais il y a à peu près 1 million de Québécois qui attendent quand même. On a encore la même promesse. 100 GMF de plus. Et qui vont être ouverts 24 heures sur 24. Pouf! Tu sais, je sais pas où est-ce qu'on manque d'infirmières, on manque de médecins, on va avoir 100 GMF de plus. Ça, c'est les libéraux, mais la CAQ a des promesses à peu près semblables. Le Parti libéral promet aussi 4000 lits d'hôpital de plus. C'est formidable.
Mais pourquoi on les ferme pendant l'été si on a besoin de plus? Tu sais, il y en a qui s'en ferment.
C'est parce qu'on manque de monde. Fait que là, on a 16 000 lits d'hôpitaux, plus ou moins 16, 17 000. OK, 4000 lits, parfait. Je veux dire, on va prendre tant qu'à ça. Tu sais, 10 000, 20 000, 50 000.
Mais on a personne pour les supporter.
Oui. Je suis
ébahie par la faiblesse. On en a parlé, je pense, il y a deux semaines, du fait, un, que la santé prend vraiment pas beaucoup de place dans cette campagne électorale-là, alors que les enjeux dans le réseau de la santé sont foudroyants. Là. Je pense qu'il y a pas beaucoup de Québécois à qui on peut parler, qui connaissent pas, ou s'ils sont pas concernés directement à être en train de chercher un médecin de famille, ont un voisin, une amie ou quelqu'un qui est sur une liste d'attente en chirurgie. Non seulement les partisans en parlent presque pas, mais leurs propositions sont d'une pauvreté
faiblesse
et irréaliste de dire, justement, comme on le dit, on va former 1000 médecins, il va y avoir 1000 médecins de plus sur dans le réseau. Tu vas les trouver où? Ça prend 10 ans les former.
Je vais dire quelque chose que tu n'aimeras pas, parce que je pense que les deux partis qui ont les meilleures propositions, c'est la CAQ et le Parti conservateur. Ça me fait de la peine un peu de l'admettre, là, mais la CAQ, le plan Dubé, globalement, il est bon. C'est par exemple de donner la pleine autonomie professionnelle à tout le monde sauf les médecins, là, c'est un méchant goulot d'étranglement. Mais est-ce que les conservateurs veulent faire, par exemple, d'avoir une diversité de fournisseurs à l'intérieur du système public, comme ça se trouve en Europe et ailleurs? Là, puis d'ailleurs, tu sais, plein de médecins présentement sont là. C'est épouvantable, le privé, les patients vont sortir leur carte de crédit. C'est câline, on est passé ce débat-là. Ouais. En France, 30% et plus des hôpitaux sont privés à but lucratif. Là. Tout le monde est couvert pareil, là, ça change rien.
Mais
ça.
Si on gratte ça?
Ouais.
De toute manière, il n'y a pas plus de personnel.
Mais
parce qu'il y en a juste qui vont quitter le privé et le public pour aller au privé.
C'est exactement ce que j'allais dire.
On n'a pas plus formé parce qu'on a des hôpitaux, des mini-hôpitaux privés.
Par exemple, tu me parles de la proposition de la CAQ. Si on y va sur les... Ils ont promis 2 mini-hôpitaux privés.
C'est ça.
OK, fine, mais je veux dire, le personnel va venir d'où? Ils vont venir d'où les médecins? Ils vont venir d'où les inhalothérapeutes? Ils vont venir d'où les infirmières?
Les
donc, on va drainer ce qu'il y a dans les... Au lieu de renforcer le réseau public, on va aller faire un système parallèle qui sera pas plus efficace, pas plus efficient,
coûteux. Non, c'est là je suis pas d'accord avec toi, parce que l'expérience avec les cliniques médicales privées, t'sais, Rockland, puis le 10-30, ils ont mesuré le output, en tout cas, excusez du mauvais mot, mais c'est la production chirurgicale.
Et ça, c'est un exemple.
Ben c'est 3 parce que tu es Opmedic, bon. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la productivité est à peu près 20 à 40% plus élevée de la vie des médecins qui travaillent là. Puis il explique pourquoi, par exemple. Si je me rappelle, je pense à la docteure, une chirurgienne oncologue, docteur Sinot, peu importe. Elle disait, moi, à l'hôpital, une bonne journée, j'en fais 4-5, mais des fois, c'est zéro. Quand je suis en clinique, j'en fais 8 ou 9. Pourquoi? Parce que les plateaux sont prêts, sont organisés sur le même étage. Puis ça, je veux dire, c'est pas de la sorcellerie, là. En Europe, on le voit aussi. Fait que des hôpitaux spécialisés, sans dire que c'est du travail à la chaîne, parce que ça peut faire peur un peu en santé, c'est pas mal plus efficace, tandis que là, les autres peuvent rester sur les colos. Fait que tu sais que le personnel, moi, peu importe où est-ce qu'il est, le médecin, là, m'en fiche un peu.
La différence, c'est que les hôpitaux privés peuvent aussi choisir leur cas, chose que l'hôpital public ne peut pas faire.
Non, mais ça, faut pas qu'ils le fassent. T'as raison, faut absolument pas.
C'est Patrick, j'allais te dire, là, tu sais, tu parles de 3 situations, mais t'as des méta-analyses qui ont été faites de toutes les situations au Québec. Il y a aucune justification qui démontre que le privé a été moins coûteux. Au contraire, c'est 19% plus coûteux. Il y a aucune démonstration que c'est plus efficace. Puis les cas, c'est sûr que le privé, nous, on est très, très en désaccord avec Patrick sur ces questions-là.
Il y a la façon dont les coûts ont été intégrés là-dedans, parce qu'il y a des expériences européennes à beaucoup plus large.
Je parle du Québec. Le Québec, on a un modèle qui est différent. On a des médecins de famille qui sont obligés de faire.
Un modèle qui marche pas.
Par exemple, les médecins de famille sont obligés d'aller aux urgences. C'est un modèle qui est différent.
Ça
marche, ça marche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est faut comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. T'sais, c'est pas pareil.
Mais je vais t'en donner des pommes et des pommes. Les CHSLD, je parle comme docteur Arruda. CHSLD privé conventionné, puis les CHSLD publics. On parle pas du privé-privé, là, parce que c'est tout croche. Ils ont le même financement, les mêmes conventions collectives, les mêmes enveloppes de soins, puis ainsi de suite. Et c'est drôle, les indicateurs sont vraiment beaucoup supérieur. Moi, j'ai regardé ça de près, puis ça fait longtemps que c'est comme ça. Fait que donc, à coût égal, c'est beaucoup, beaucoup mieux pour les patients, pour les milieux de vie. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, ils sont un peu plus débrouillards pour les trucs administratifs. Ils peuvent pas rogner sur les soins en passant, il n'y a pas de permission.
Je te parle d'hôpitaux. Toujours d'hôpitaux, de chirurgie. Ouais. Parce que l'exemple que tu donnais, par exemple, à Rockland et compagnie, puis c'est vrai, là, les médecins, je veux dire, moi, j'ai eu ces discussions-là mille fois avec eux. Quand t'as un plateau de tournage, un plateau de, un plateau
tous
médical.
Tous les acteurs, en fait, il y a personne qui est malade là-dedans.
Ouais, c'est comme aller chez le dentiste, tu sais, il y a quelque part où ton plateau est déjà prêt, tes outils sont stérilisés, puis là, c'est bon, mais aujourd'hui, on fait 30 opérations du même coup. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite, mais il y a un danger de prendre seulement, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Les cas qui sont plus faciles, les cas qui vont bien, et de laisser le reste au public. Donc là, ça veut dire que tu engorges le public, tu lui crées encore plus de difficultés. Moi, je pense que les deux mini-hôpitaux privés, les infirmières et les analthérapeutes, ils vont se garrocher pour aller là, c'est sûr. Ça va être nouveau, ça va être neuf, ça va être beau, ça va bien fonctionner.
Mais moi, j'ai une expérience personnelle. Je ne sais pas si vous connaissez la clinique Hop pédiatrique du hockey au 10-30, une clinique pour enfants. En fait, un mini-hôpital pour enfants où tu te présentes là quand ton enfant est malade. C'est fait pour les enfants, tu peux faire tes radios sur place, t'as un médecin, t'as accès rapidement à des soins, peut faire les prises de sang, tout se fait sur place, c'est vraiment un mini hôpital et c'est d'une efficacité incroyable. Et je pense que d'ailleurs on avait reçu Christian Dubé ici, c'est ce modèle qu'ils veulent réitérer un peu partout au Québec. Honnêtement, c'est ça.
Moi, je me rappelle un médecin.
Mais ça reste qu'on manque de ressources humaines.
Ouais, mais
ça reste que tant qu'il n'y a pas la main d'œuvre, on manque. Tu sais, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a des hôpitaux. C'est fou, là. C'est fou braque. Depuis un an, il y a des urgences, des hôpitaux qui ont fermé à répétition au Québec parce qu'il manquait de main d'œuvre pendant
l'été. T'as raison, c'est épouvantable. Mais sauf que si le même monde sont capables de produire plus, là, tu sais, même les CLSC, écoute, moi, il y a un médecin, j'ai eu des
vaccins. Tes médecins peuvent peut-être produire plus, mais tes infirmières puis tes inhalos, moi, j'ai pas entendu une infirmière qui me dit qu'elle se tourne les pouces pendant son corps
Non,
travail,
mais sauf qu'ils, des fois, ils rament dans le beurre
ils
un peu.
Ils font du TSO, là. On est en train de dire, est-ce qu'on abolit le travail supplémentaire obligatoire?
Les amis, quelle conversation passionnante. Moi, je pense que on peut plus faire de VMX, là. Il va falloir que vous veniez ici tous les jours, vous chicaner autour de cette table, que je puisse jouer la personne la plus équilibrée dans la gang, là, tu sais, comme de part et d'autre. J'aime ça, vous avoir avec moi. Revenez plus souvent me voir.
Avec plaisir.
On va essayer de faire ça.
À demain.
Ciao.
À demain.